Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Chemins de la vie avec l'autrice Jida Ayad. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation et du deuil de nos anciennes habitudes culinaires.
Bonjour.
Alors, imaginez un peu la scène. On est vendredi soir, vous êtes attablé avec vos meilleurs amis, et là, au centre de la table, on vient de poser une grande pizza bien fumante.
Ah, le classique.
Ouais, voilà. L'odeur de la pâte grillée remplit la pièce, tout le monde rit, tend la main pour attraper une part, et vous, bah vous reculez. Vous hésitez. Vous calculez tout, en fait. Parce que ce geste qui était si simple, si convivial, c'est soudainement devenu une menace.
C'est ça, c'est ce fameux mur invisible qui vient de se dresser.
Exactement, entre vous, les autres et la nourriture. Et c'est précisément ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Notre mission pour cette exploration, c'est vraiment de comprendre pourquoi un changement d'alimentation, imposé par la santé, comme le passage au sans gluten ici, bah ça n'a rien à voir avec une simple liste de courses qu'on modifie. C'est un véritable séisme émotionnel.
Et c'est important d'en parler, parce que ce mur invisible dont vous parlez, c'est vraiment le cœur du texte qu'on explore aujourd'hui.
Tout à fait.
En fait, pour bien situer, on plonge là dans le jour 2 d'un programme d'accompagnement qui a été créé par l'autrice. Et bon, elle est docteure en sciences agronomiques, elle est nutritionniste.
Donc, elle sait de quoi elle parle niveau chimie.
Ah bah complètement. Mais là, elle s'adresse pas à notre intellect, elle s'adresse vraiment à notre vulnérabilité.
Ouais.
Parce que recevoir un diagnostic cœliaque, c'est pas juste apprendre que son système immunitaire attaque son intestin, c'est voir un acte naturel vital se transformer du jour au lendemain en un exercice de haute voltige, quoi.
C'est épuisant, en fait. Cette vigilance permanente, elle est épuisante.
Complètement.
En lisant ces passages, il y a une image très forte qui m'a traversé l'esprit. J'ai eu l'impression que ce bouleversement, ça ressemblait à la perte soudaine de sa langue maternelle.
Ah, c'est une très belle image.
Bah oui, vous êtes chez vous, dans votre propre cuisine, votre petit sanctuaire, et brusquement, vous comprenez plus rien. Vous devez, je sais pas, traduire chaque geste, déchiffrer chaque étiquette comme si c'était un texte dans une langue étrangère.
Ouais, et analyser le moindre repas improvisé aussi.
Dictée totale devient un effort cognitif hyper lourd.
Mais cette analogie de la langue maternelle, elle est brillante parce qu'elle capture bien la dimension identitaire de la nourriture. L'autrice le souligne avec beaucoup de poésie d'ailleurs. Elle dit que manger, c'est se souvenir, c'est la mémoire sensorielle d'un voyage.
Le gâteau d'anniversaire de notre enfance.
Exactement, le gâteau de sa mère, le pain rompu au milieu de la table familiale le dimanche midi, quoi.
C'est clair.
En fait, la nourriture, c'est le fil conducteur de nos relations sociales. Donc, quand on vous annonce que le gluten doit être radié de votre vie, bah, c'est toute cette architecture invisible, ce langage commun avec vos proches, qui s'effondre.
Et c'est ce qui explique, je pense, pourquoi les réactions de l'entourage peuvent être si douloureuses à entendre.
Ah oui, les fameuses phrases qu'on a tous entendues.
Mais genre, allez, ce n'est qu'un morceau de pain, c'est pas la fin du monde.
Ou bien, tu vas voir, il y a des choses plus graves.
Voilà, c'est terrible. Ces remarques, elles passent totalement à côté du sujet. Parce que ce qu'on pleure, bah, c'est pas la farine de blé en soi.
Bien sûr que non.
C'est la simplicité. C'est la liberté de dire oui à une invitation à dîner sans devoir, interroger la personne sur la composition exacte de sa sauce ou...
Ou sur les risques de contamination croisée sur la planche à découper.
Mais exactement, c'est lourd.
Il y a un vrai gouffre de compréhension là, entre la personne cœliaque et son entourage. Parce que pour quelqu'un qui n'a aucune restriction, bah, l'acte de manger, ça demande aucune énergie mentale. C'est invisible.
Ouais.
Et l'autrice insiste sur un point fondamental à ce stade. Elle dit qu'il faut d'abord valider notre propre ressenti avant d'espérer que les autres le comprennent.
C'est super important, ça.
Parce que ce deuil d'une alimentation spontanée, ça déclenche des émotions intenses, parfois super sombres. Hein.
De la colère, de l'injustice.
De la colère, ouais, un sentiment d'injustice profonde, de la tristesse, et même de la jalousie, en regardant un collègue mordre dans un sandwich sans y penser.
Ouais, on se sent coupable de ressentir ça.
Et pourtant, ces émotions, elles sont normales et surtout nécessaires.
C'est ça. On se dit souvent, bon, c'est mon traitement, je sais que ça me sauve la vie, je devrais être hyper reconnaissant.
C'est la culpabilité qui parle, ça.
Totalement. Mais l'autrice met le doigt sur un concept vraiment libérateur par rapport à cette dissonance. Elle explique que notre cerveau, notre raison, peut tout à fait analyser et accepter les faits médicaux bien avant que notre cœur ne s'y résigne. On peut lire ses analyses de sang, voir que l'inflammation baisse, comprendre que ce régime est vital, et pourtant, le soir même, fondre en larmes devant la vitrine d'une boulangerie.
C'est fou, hein ? Cette dualité entre la logique médicale et la mémoire sensorielle, c'est fascinant, hein, psychologiquement. La raison, elle fonctionne avec des données pures. Les symptômes disparaissent, l'énergie revient, voilà, le diagnostic est clair.
C'est factuel, quoi.
C'est ça. Mais le cœur, lui, fonctionne avec le système limbique, donc le siège de nos émotions et de nos souvenirs.
Ah oui.
Donc l'odeur d'une baguette chaude, ça déclenche pas une pensée sur la santé intestinale.
Bah non, ça déclenche le souvenir des matins d'enfance.
Exactement. Du réconfort, de l'insouciance. En fait, ce que l'on quitte, ce sont des rituels qui nous définissaient.
Et faire le deuil de ça, ça prend du temps.
Un temps fou. Le cerveau a besoin de créer de nouvelles connexions émotionnelles. Et ça se fait pas en un claquement de doigts.
Et justement, parlons de ce qui se passe quand on essaye d'accélérer ce processus. Parce que le premier réflexe, en général, quand on nous retire ce pain de notre quotidien...
C'est de chercher à le remplacer tout de suite.
Mais oui, on court au rayon sans gluten du supermarché pour trouver un produit qui lui ressemble trait pour trait.
Ouais.
On veut colmater la brèche immédiatement. C'est ce que l'autrice appelle le piège de la copie conforme.
Et c'est un vrai piège. En fait, c'est le réflexe de survie de notre cerveau face à un manque. On cherche le substitut le plus proche pour maintenir l'illusion de la normalité, quoi.
On veut la même mie alvéolée.
Voilà, le croustillant sous la dent, l'élasticité de la pâte à pizza. Mais cette quête, elle mène presque inévitablement à la déception.
Pourquoi, en fait ?
Pour des raisons physiques et chimiques incontournables. Le gluten, c'est pas juste un ingrédient abstrait qui donne mal au ventre.
C'est plus que ça.
C'est un réseau protéique extrêmement spécifique.
Comment ça fonctionne exactement ? Parce qu'on en entend parler partout de ce gluten, mais on comprend rarement son rôle mécanique dans la cuisine.
Bah, imaginez le gluten comme la charpente élastique d'un bâtiment.
D'accord.
Quand vous mélangez de l'eau et de la farine de blé, vous avez deux protéines, la gliadine et la gluténine, qui s'assemblent pour former ce fameux réseau élastique. Et quand la levure produit du gaz à la cuisson, ce réseau, il va emprisonner les bulles d'air. C'est ça qui fait gonfler le pain.
C'est ça qui donne le moelleux, en fait.
Exactement. Ça s'étire quand on tire dessus. Donc, si vous enlevez le gluten, vous enlevez l'élasticité et le ciment.
C'est comme essayer de construire une maison sans mortier.
C'est exactement ça. Les farines sans gluten, comme le riz ou le maïs, elles n'ont pas cette structure. Donc, reproduire à l'identique une baguette traditionnelle sans gluten, c'est une impossibilité physique, tout simplement.
D'accord. Mais attendez, si on se met à la place de la personne qui vient d'être diagnostiquée,
ouais.
Si la physique nous dit que la copie conforme est impossible et que je croque dans une pizza dont la pâte, je sais pas, s'effrite comme du sable dans ma bouche...
Ouais, l'horreur.
Comment ne pas voir ça comme un échec monumental ? Enfin, mon cerveau a anticipé une pizza, mes papilles étaient prêtes. Et l'expérience est juste triste, quoi.
Je comprends tout à fait.
Comment on peut demander à quelqu'un de s'en contenter ?
En fait, c'est pas un échec du produit en soi. L'autrice explique que c'est une collision brutale entre nos attentes et la réalité. Et elle propose une nuance hyper puissante pour sortir de cette impasse. Elle dit « Notre ancienne alimentation n'était pas nécessairement meilleure dans l'absolu, elle était simplement... connue.
Ah, c'est intéressant, ça.
Notre cerveau, il adore ce qui est prévisible. Une habitude ancrée, ça demande très peu d'énergie métabolique.
Oui, c'est à quoi s'attendre, quoi.
Voilà. Alors que l'inconnu, ça déclenche de l'anxiété, ça demande un effort. Si votre critère de réussite, c'est de reproduire le passé au millimètre, vous allez toujours perdre.
Parce que la texture sera forcément différente.
Exactement. Mais si vous acceptez que cette nouvelle pâte ne soit pas de la pâte à blé, mais autre chose, par exemple une délicieuse galette rustique à la farine de sarrasin, bah là, vous changez le référentiel.
C'est un changement de perspective radical, en fait. On passe de l'imitation à la création.
C'est exactement ça. L'objectif, c'est plus de tromper son cerveau avec une illusion de blé, mais de l'éduquer à de nouvelles sensations.
Et c'est ce pivot psychologique que l'autrice encourage vraiment. Tant qu'on reste dans la comparaison du genre, ce gâteau sans gluten est un peu plus sec que l'ancien.
On reste dans la frustration, voilà, dans le deuil. Mais quand on lâche cette comparaison, on se recouvre à des textures différentes. Plus dense, plus fondante, plus sablée.
Ouais.
On découvre, je sais pas, le goût torréfié de la farine de teff, la douceur de la farine de châtaigne.
Des choses qu'on n'aurait jamais essayées autrement.
C'est clair. Des saveurs qui n'auraient jamais traversé notre cuisine si le blé avait continué d'occuper toute la place, en fait.
Mais ça nous amène à la mise en pratique. Parce que c'est bien beau de comprendre tout ça intellectuellement. Mais bon, quand on est fatigué un mardi soir après le travail, l'envie de pleurer devant son placard, elle revient vite, quoi.
Ah oui, la réalité nous rattrape.
Mais l'autrice, elle a la grande intelligence de ne pas nous laisser seuls avec juste de belles théories. Elle nous donne des outils vraiment concrets pour, comme elle dit, faire de la place. Et tout commence par un recadrage mental très simple en remplaçant la phrase « Qu'est-ce que je ne pourrai plus jamais manger ?» par « Qu'est-ce que je peux découvrir maintenant ?»
Et ce changement de phrase, il est clé, parce que la syntaxe de nos pensées, elle façonne notre réalité émotionnelle.
C'est très vrai.
La première question, Qu'est-ce que je ne pourrais plus manger ? Elle nous enferme dans une pièce sans fenêtre. On est tourné vers le passé, vers la privation.
Alors que la seconde, elle ouvre une porte.
Voilà, vers l'exploration. Et pour ancrer ça au quotidien, elle propose des rituels d'ancrage, des petites pauses pour empêcher le cerveau de tourner en boucle sur le négatif.
Mmh.
Par exemple, le rituel du matin, ça consiste à s'interroger sur ses motifs de gratitude.
Et j'aime beaucoup la façon dont elle aborde la gratitude. C'est pas du tout de la positivité forcée ou naïve.
Non, pas du tout.
Il s'agit pas de dire, en sautant de joie, « Génial, je suis cœliaque, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée ».
Surtout pas.
Il s'agit de trouver des ancrages réels. Ça peut être une immense gratitude envers son propre corps qui, bah, après des années d'inflammation, de douleur, commence enfin à guérir.
C'est puissant, ça.
Ou d'avoir trouvé le bon médecin. Et elle nous invite aussi à identifier ce qu'on aime le plus dans notre vie actuelle. Parce que, ok, le diagnostic a modifié le contenu de l'assiette, mais il n'a pas effacé nos amitiés, nos passions, nos talents.
C'est ça. Et ces rituels matinaux, ils servent vraiment à recalibrer le système nerveux avant que le stress des repas de la journée ne prenne le dessus.
Mmh. Et le soir ?
Le rituel du soir, il vient clore la boucle. Avant de dormir, on se demande ce que l'on a appris dans la journée.
D'accord.
Est-ce qu'on a maîtrisé une nouvelle technique pour lier une sauce sans farine, par exemple ?
Ou trouver un super resto sans gluten.
Voilà. Chaque petite victoire compte. Parce que ça prouve à notre cerveau que cette nouvelle vie, elle est gérable et même enrichissante.
Mm.
Mais parmi tout ça, l'exercice le plus thérapeutique, c'est celui des deux colonnes.
Ah oui, cet exercice m'a particulièrement touché. Par sa grande honnêteté.
Ouais. L'idée, c'est de prendre une feuille de papier. On trace une ligne au milieu. Et dans la colonne de gauche, la consigne, c'est d'écrire « ce qui me manque
».
Et elle insiste sur le fait de n'avoir aucun filtre. Si ce qui vous manque, c'est, je sais pas, le croissant chaud de la gare à 6h du matin.
Ou piocher dans les cacahuètes au bar sans réfléchir.
Exactement. Bah, écrivez-le. L'écriture manuscrite de cette colonne de gauche, elle a une fonction cathartique vraiment puissante. Elle matérialise la perte. Souvent, les personnes diagnostiquées cœliaques essaient de se montrer super fort devant leurs proches, de minimiser...
Pour pas déranger, souvent.
Exactement. Cette colonne, c'est l'espace où on a le droit d'être vulnérable, de nommer précisément les textures, les moments sociaux, les insouciances qui ont disparu.
Ouais.
Parce que tant que ces deuils ne sont pas reconnus et validés sur le papier, ils continuent de nous hanter sous forme de frustration sourde.
C'est tellement vrai. Et une fois que cette douleur est reconnue et déposée sur le papier, là, on peut passer à la colonne de droite.
Ce que j'aimerais découvrir.
C'est ça. Et ce qui est hyper rassurant, c'est qu'on ne nous demande pas de remplir 10 lignes du premier coup.
Ah non.
Si aujourd'hui, vous avez la force d'écrire juste une seule envie, genre « j'aimerais apprendre à cuisiner des nouilles de riz », bah, c'est déjà une énorme victoire.
Mmh.
L'objectif, c'est pas d'effacer la colonne de gauche instantanément, mais de s'assurer que la colonne de droite commence à exister, quoi. Que l'avenir soit pas juste un grand vide.
Et c'est ça l'essence d'un accompagnement doux et bienveillant. L'autrice, elle refuse totalement cette forme de positivité toxique qu'on voit parfois sur les réseaux sociaux.
Ah oui, le côté le sans gluten, c'est une merveilleuse aventure détox, ossements si colorés.
Mais tellement. Elle reste ancrée dans la réalité clinique et émotionnelle d'une maladie. Faire de la place pour de nouvelles saveurs, ça nécessite d'abord d'accepter que les anciennes, bah, elles vont nous manquer de temps en temps.
Et elle nous rassure sur un point essentiel, qui agit comme un baume pour tous ceux qui aiment profondément manger.
Mmh.
Faire le deuil de son ancienne alimentation, ça ne signifie absolument pas faire le deuil de la gourmandise.
Exactement.
La gourmandise, elle survit au diagnostic. Il y aura toujours du pain sur votre table, il y aura des pâtisseries, des sauces onctueuses.
Des repas partagés qui durent des heures.
Voilà. Le plaisir disparaît pas, il change simplement d'ingrédient. C'est une nouvelle histoire qu'on va tisser autour de la table.
Et cette notion de nouvelle histoire, elle est capitale. Le diagnostic cœliaque, c'est en aucun cas une condamnation à l'austérité, hein ?
Non, surtout pas.
Bon, après, l'acceptation de cette condition ne raille pas magiquement toutes les difficultés de la carte non plus. L'autrice est très transparente là-dessus.
Ouais.
Vous pouvez être profondément en paix avec le fait que le sans gluten, c'est votre bouée de sauvetage. Et pourtant, un jour de grande fatigue...
Avoir envie de tout jeter par la fenêtre.
Parce qu'il faut encore éplucher les étiquettes d'une nouvelle marque de soupe au supermarché.
Ah, ça rend fou, ça.
C'est humain. L'acceptation n'efface pas les émotions difficiles. Elle empêche simplement ces émotions de diriger votre vie en permanence.
Et c'est un équilibre délicat, mais qui est profondément humain. On se donne le droit de craquer un jour, et le lendemain, on se réjouit de la première odeur de gâteau qui sort de notre propre four.
Parce que oui, il y aura de nouvelles odeurs.
Mmh. Une nouvelle farine, une nouvelle épice. Et soudain, Le cerveau enregistre un nouveau souvenir heureux, et en sécurité surtout.
Tout à fait.
On prend alors conscience d'une chose magnifique, de un, on n'a jamais cessé d'aimer manger. On a juste appris à manger autrement.
C'est une belle conclusion. On est passé de la privation à l'adaptation. Et c'est cette fondation émotionnelle hyper solide qui est construite par l'acceptation et le deuil assumé qui prépare vraiment le terrain pour la suite du parcours.
Oui, parce que l'autrice mentionne d'ailleurs que le jour 3 de son accompagnement va consister à transformer cette contrainte médicale, qu'on vit au départ comme une punition, en un véritable acte de soin pour soi-même.
C'est la prochaine étape.
Prendre soin de son corps devient un choix conscient plutôt qu'une punition subie. Mais pour y arriver, il fallait d'abord faire la paix avec ses souvenirs.
Exactement.
Et c'est vraiment tout l'enjeu du texte qu'on a exploré aujourd'hui. La table de votre cuisine est peut-être différente de celle d'il y a un an, mais elle n'a aucune raison d'être vide.
Ah ça, c'est clair.
Alors, puisque nos souvenirs sont si intimement liés à nos cinq sens, et que l'inconnu n'attend que d'être apprivoisé, je vous laisse sur cette réflexion. Quelle est la toute première nouvelle odeur ou la toute première nouvelle saveur que vous allez inviter consciemment dans votre cuisine cette semaine pour commencer à écrire ce nouveau chapitre ? C'était une exploration des écrits de l'autrice Jida Ayad. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.